Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission de radio tout en français sur Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lime.
Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille et sur Instagram Bouche à Oreille UK.
Ouvrez vos oreilles! Ce soir, on parle d'amour transmanche et plus précisément de mariage franco-britannique. Alors, en plus de décider si le dessert sera une pièce montée traditionnelle croque-en-bouche avec ses choux recouverts de caramel ou un wedding cake british aux fruits secs, amandes et brandy, à quoi faut-il penser lorsque, comme nombre de nos auditeurs, on appartient à un couple franco-britannique ? Pour en parler ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir Emily Helm au studio. Emily est avocate et coach en droit de la famille. Elle va éclairer notre lanterne, plus particulièrement en matière de contrat de mariage, et répondre à nos questions. Bonsoir Emily.
Bonsoir, merci de m'avoir invitée aujourd'hui.
Eh bien, merci d'être à nos côtés. On est ravis de t'accueillir au studio de Bouche à Oreille. Alors, pour planter le décor, Émilie, on va commencer par te demander pourquoi faire un contrat de mariage ou un nuptial agreement. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça plutôt que de penser au gâteau, par exemple?
Ben, c'est plus intéressant de penser au gâteau, mais c'est une bonne question. Alors vraiment, c'est pour essayer de vous donner un peu de certitude pendant une situation bouleversante. Je fais exprès de dire un peu, parce que les nuptial agreements ne sont pas forcément appliqués par le juge anglais en cas de divorce.
D'accord.
Alors en Angleterre, le patrimoine, c'est-à-dire les biens, sont divisés à la discrétion du juge, selon des principes établis dans la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des juges, et selon les faits du dossier. Il n'y a pas de régime matrimonial comme en France. Donc, le point de départ est de faire une répartition de 50-50 pour chaque partie des biens accumulés pendant le mariage. Alors, c'est pas forcément très simple. L'objectif du juge, c'est vraiment d'essayer de parvenir à un résultat équitable et juste, mais la justesse, c'est un terme assez élastique.
Voilà, c'est peut-être un petit peu subjectif.
Très subjectif. Et ce qu'on peut avoir dans un système juridique discrétionnaire, où il faut prendre en compte des éléments différents, on peut avoir une situation où deux juges avec le même ensemble de faits va arriver à des conclusions différentes pour ce qui est juste. Mmh. Alors c'est pour ça que les gens souhaitent avoir un contrat pour essayer d'avoir un peu plus de certitude.
D'accord. Donc c'est un parachute, on va dire, en cas d'éjection de l'avion mariage. D'accord. Voilà. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est un contrat de mariage pré ou post-nuptial et indiquer aussi les différences qu'on peut rencontrer entre la France et la Grande-Bretagne?
Ben oui, bien sûr. Alors, un prenuptial agreement, c'est un accord qui peut être conclu avant le mariage. Alors, c'est prenuptial si on le fait avant le mariage. Ou des fois, les gens décident d'en avoir un pendant le mariage. Alors là, on l'appelle un post-nuptial agreement. Et vraiment, l'objet de l'accord, c'est de protéger les parties en cas de divorce. Mm-hmm. Mais vraiment, ça traite seulement les questions de divorce et pas le décès, par contre, comme le contrat français.
D'accord.
Alors, c'est un accord qui va traiter toutes les conséquences financières du divorce. Par exemple, comment séparer les actifs, est-ce qu'on a besoin de donner un soutien financier à l'autre en tant qu'une pension alimentaire. Et c'est un document qui est vraiment très détaillé. Alors, c'est vraiment adapté aux besoins, aux souhaits des clients dans le cadre de ce qui est permis par la loi. En France, je pense que c'est pas vraiment comme ça. Ce qu'on fait en France, c'est presque automatique d'avoir un contrat de mariage. Et si on n'en fait pas, après, je pense qu'il y en a un qui est mis tout de suite. De toute façon, si on n'a pas de si on ne choisit pas de contrat, c'est
on était alors nous quand on s'est marié, ça fait très longtemps, mais en tout cas à la mairie, on devait choisir. Déjà, on devait déclarer quel était notre contrat. Donc nous, c'était la communauté, mais il fallait le déclarer le jour du mariage avant que le maire nous prononce mari et femme.
Voilà.
Donc on n'a jamais vu le contrat lui-même, mais en tout cas, il fallait choisir le régime.
Mais je pense que si on ne choisit pas, le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquis s'applique automatiquement. Alors, et en fonction des règles qui s'appliquent en France, ça va dicter comment les actifs sont divisés. Mais le contrat français ne traite pas d'autres conséquences financières de divorce, telles que la pension alimentaire. Mmh. Ça, c'est une grande différence avec le contrat anglais.
D'accord, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? Alors, si pour nos auditeurs qui pensent maintenant à faire un contrat, soit parce qu'ils ne sont pas encore mariés, soit parce qu'ils sont mariés, mais que peut-être ils pensent que ça serait une bonne idée, comment procéder?
Alors, en Angleterre, c'est quelque chose de plus compliqué qu'en France, parce que tous les deux, vous avez besoin d'avoir votre propre avocat. Mmh. Alors, vous avez besoin d'un conseil juridique indépendant pour montrer que vous avez bien compris les conséquences de l'accord. Deuxièmement, il faut échanger des informations financières. C'est important de comprendre ce que chaque personne a en tant que bien. Ça, on peut faire juste une liste, ça peut être assez simple. On peut aller vraiment dans les détails et mettre des preuves en évidence. Et troisièmement, il faut montrer qu'il n'y a pas eu de pression ni de contrainte pour le signer.
Oui,
alors, la façon qu'on va faire ça, c'est d'encourager les gens de signer au moins un mois en avance.
Avant le mariage.
Oui, pas le faire la veille, comme on fait
d'accord.
en France.
Oui.
Parce que si on fait la veille, après, c'est plus facile de dire, ben voilà, on m'a mis la pression, j'avais pas le choix, on n'allait pas se marier si je signais pas, et voilà.
J'avais tout commandé, la pièce montée était commandée.
Voilà, la robe et tout.
D'accord, donc sans pression, d'accord. Alors, tu nous as dit tout à l'heure, tu as mentionné le fait qu'en Angleterre, l'interprétation du contrat est un peu à la discrétion, même complètement, à la discrétion du juge. Comment est-ce que ça se passe? Alors, en Angleterre, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un avait un contrat de mariage français et voulait l'appliquer en Angleterre, par exemple?
Alors, un contrat de mariage français, ça c'est intéressant. Alors, pour commencer, pour vous rappeler, c'est pas les prenuptial agreements ou les contrats de mariage, c'est pas légalement contraignant, c'est pas legally binding.
D'accord.
C'est seulement l'un des facteurs que le juge anglais va prendre en compte lorsqu'il décide ce que c'est un résultat équitable. Si on a un contrat de mariage français, ben, c'est intéressant parce que les choses ont beaucoup bougé. Il y a 10 ans, quand les contrats étrangers étaient moins courants en Angleterre, les juges, souvent, ils décidaient d'ignorer le contrat.
D'accord.
C'est comme si vous n'avez pas de contrat, voilà. Ils se disaient que ce n'était pas forcément juste d'appliquer un document quand le couple ne savait pas forcément que le divorce aurait lieu en Angleterre, ce que ça voulait dire de divorcer en Angleterre, et voilà. Mm-hmm. Mais maintenant, ça a changé parce qu'ils sont beaucoup plus courants. Et les juges considèrent qu'il est injuste d'appliquer des critères anglais à des accords étrangers quand c'est courant dans le pays où ils étaient rédigés. Alors en France, c'est automatique. En Angleterre, c'est pas automatique. Mais ce que le juge va essayer de faire, il va essayer de respecter le terme dès l'instant que ça va pas donner un résultat qui n'est pas équitable, dès l'instant que ça va répondre aux besoins alimentaires. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que comme le contrat français, ça parle seulement des questions du patrimoine et pas de alimentation, de la pension alimentaire. Si l'accord n'est pas forcément très généreux, le juge pourrait quand même choisir de faire des allocations généreuses pour la pension alimentaire pour satisfaire aux besoins de l'autre partie.
Donc ça, c'est quand même une nuance très importante parce qu'on peut avoir fait un contrat en France, donc qui traite du patrimoine, des biens des personnes sans penser aux enfants, par exemple, ou à la pension alimentaire.
Oui.
Donc on peut partir sur la base que voilà, on va diviser ça, 60-40.
Oui.
Et il se trouve qu'arrivé en Angleterre, le juge peut décider du fait que cet accord n'est pas équitable quant aux besoins d'une des parties et va donc décider d'octroyer une pension alimentaire ou quelque chose pour rétablir la balance, en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça, et ça va pas forcément se faire seulement en tant que pension alimentaire, parce que la question des besoins, on peut faire une répartition du capital, des biens.
D'accord.
Si ça va répondre aux besoins. Les besoins, c'est le plus important. Et c'est pour ça vraiment que Londres est vraiment devenue le capital du divorce du monde. Parce que souvent, dans les dossiers où il y a beaucoup, beaucoup d'argent, on peut avoir un résultat assez généreux parce qu'on en a besoin.
Mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de divorces célèbres qui sont à Londres, enfin en Grande-Bretagne en tout cas, où l'une des parties choisit la Grande-Bretagne en espérant que ça donnera un résultat peut-être plus généreux.
C'est marrant parce que avant Brexit, on avait ce qu'on appelait le Eurostar divorce.
C'est ça. Il fallait sauter dans l'Eurostar.
Voilà, fallait se précipiter parce que c'était le premier qui avait lancé sa procédure de divorce, qui allait avoir la juridiction qu'il souhaitait. Et bien sûr, l'Angleterre, en étant plus généreux, il y avait beaucoup de femmes qui venaient rapidement en Angleterre pour essayer de saisir le juge.
Mais c'est plus le cas.
Malheureusement, c'est plus le cas. Depuis Brexit, c'est plus compliqué maintenant.
D'accord, ça a mis un terme un peu à ça. Alors, comment, pour nos auditeurs qui pensent maintenant passer le pas, on va dire, comment est-ce qu'ils peuvent décider de quel type de documents avoir ? Par exemple, si quelqu'un qui se marie et qui a des actifs dans différents pays ou de multiples nationalités, ou si quelqu'un prévoit de vivre à l'étranger, quelles sont les choses auxquelles il faut penser? Quels sont les types de documents qu'il faut mettre en marche?
Je vais dire tout de suite que tout va dépendre des faits, parce qu'il n'y a pas vraiment une réponse qui va marcher pour tout le monde. Ça dépend des faits. Ce que je conseille vraiment, c'est de prendre de conseils juridiques assez rapidement, bien en avance.
D'accord.
Et de vraiment prendre des conseils dans les juridictions concernées. Alors, s'il y a des biens dans un autre pays, de prendre conseil dans ce pays-là, ou si vous avez l'intention de vivre ou de vous expatrier quelque part d'autre, prendre conseil. Moi, ce que je préfère faire, je préfère avoir seulement un document et que tous les avocats de chaque pays travaillent dessus.
D'accord.
Et d'essayer vraiment de traiter toutes les questions et de satisfaire toutes les exigences de chaque juridiction. C'est pas forcément très facile de le faire, mais je trouve que quand on a plusieurs documents, après on a le risque de se contredire.
Ouais.
Et de se trouver dans une situation où ni l'un ni l'autre va fonctionner de la façon qu'on espérait. Mmh. Alors vraiment le conseil, c'est d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît dans le droit international, qui va pouvoir vous conseiller, qui va pouvoir vous mettre en contact avec les avocats dans d'autres pays, et de commencer bien en avance, de vraiment commencer au moins 6 mois en avance, pas le mois avant le mariage, parce que ça prend du temps, et on veut montrer qu'il n'y a pas eu de pression, etc. Ce serait dommage de le faire la dernière minute et après que le juge l'ignore parce que il dit il y a eu de la pression, c'était la veille du mariage. Et aussi on a envie vraiment de se concentrer sur le mariage.
Exactement.
Sur le gâteau, sur la pièce montée, sur la robe et
la playlist.
Voilà, la playlist, on a envie vraiment de faire le contrat et de après l'oublier, de le mettre dans un tiroir et de puis y penser. Mais en disant ça, c'est aussi important de revoir les prenuptial agreements. Alors, par exemple, si vous en faites un avant votre mariage, 5 ans plus tard, si vous avez des enfants, vous allez vous expatrier, regardez-le. Parce qu'on a peut-être besoin de le changer, parce que les circonstances changent.
D'accord.
Et ce qui était juste il y a 20 ans n'est pas forcément juste plus tard.
Tout à fait, voilà. Tout à fait, suivant ce qui arrive au cours de, voilà, au cours de sa vie.
Ouais.
Merci, bah, que de précieux, précieux conseils. Merci beaucoup, Émilie, d'être passée au studio. Si vous nous avez pris en route, vous pourrez réécouter l'interview avec Émilie. Et ton message, bien sûr, était également qu'il n'était jamais trop tard. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas passé le pas d'un contrat ou d'un accord, mais qui se trouvent à un moment de leur mariage où ça leur semble une bonne idée, ils peuvent quand même le faire, n'est-ce pas?
Ils peuvent quand même le faire, et c'est aussi pour dire que je sais que souvent les gens disent que c'est peu romantique de faire un contrat et de penser à la fin dès le début, mais oui, des fois c'est quand même assez sain,
oui, tout
de
à
savoir
fait
qu'on peut avoir ces conversations difficiles sans que tout s'effondre dans le couple. Alors ça peut être une bonne chose.
Tout à fait. On conclut sur ça. Alors merci beaucoup, Émilie.
Merci beaucoup. Allez, au revoir.
Au revoir.